If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Post-Scriptum a 4 ans et nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons diffusé à ce jour plus de 60 épisodes. Un kaléidoscope d'histoires, de femmes et d'hommes aux parcours inspirants, mais surtout de dialogues renoués à notre micro. Merci à vous, chers auditeurs, de nous accompagner dans toutes ces rencontres.
Pour célébrer cet anniversaire, nous avons eu envie de donner la parole à ceux qui nous ont fait confiance les premiers, en livrant leur histoire à notre micro. Celles et ceux par qui tout a commencé. Comment vont-ils, 4 ans après le début de cette aventure ? Dans les 2 prochains épisodes, on vous propose de prendre de leurs nouvelles.
Alors, pour l'instant, j'ai été donc en Égypte, en Norvège, en Israël, en Jordanie, au Kenya, en Martinique, à Budapest, en Toscane, et je vais en Andalousie dans 10 jours. Et je me sens très chanceuse parce que je rencontre beaucoup de gens du coup qui ont perdu la vue ou qui perdent la vue. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ce que je fais là. Donc je perds la vue en voyant toutes les merveilles du monde. Donc c'est cool. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est joli comme façon de perdre la vue, quoi.
On retrouve Lorraine, 37 ans. Il y a 4 ans, elle nous avait raconté ses 2 grèves de cœur. Et aujourd'hui, dans le premier chapitre de cet épisode, elle nous raconte une nouvelle claque, comme elle dit. D'ici 2 ans, elle sera aveugle. Dans ce 2e chapitre, elle se prépare à ce qui sera bientôt sa nouvelle vie, et cela commence d'abord par un tour du monde.
Cher scénariste de ma vie, lettre sonore numéro 62.
Chapitre 2, à tâtons.
Le premier voyage que j'ai fait, je suis partie en Égypte. Et là, je me suis pris une énorme claque face à ces pyramides, face à ces tombeaux, face à cette histoire incroyable de ce peuple incroyable qui vivait il y a 7000 ans, qui a remis ma vie à sa juste place, en fait, sur l'échelle de l'humanité. Et j'en avais vraiment besoin. Parce que, tu sais, tu t'enfonces un peu, tu te dis effectivement qu'il t'arrive que des merdes, et puis après, tu réalises qu'en fait... À l'échelle du temps et à l'échelle de l'humanité, ma vie à moi, elle est pas grand-chose. Et ma souffrance aussi, pas grand-chose. C'est pas pour minimiser ce que je vis, mais c'est pour la remettre à sa place. C'est comme si le poids de l'histoire m'avait écrasée, en fait, mais que ça m'avait soulagée.
Je suis dans l'avion, Clément, j'ai bien filé ta casquette à Mam. Et voilà, on est trop contentes, on est assises, on vous embrasse toutes les 3. Voilà, je vous fais des gros bisous, vous allez me manquer, au revoir les chouchous.
Et après, je vais aller à Bali, je vais aller voir des aurores boréales, je vais aller à Québec voir les baleines. Je vais aller faire la côte ouest des États-Unis et je voudrais aller en Amérique latine pendant 1 mois. J'aimerais bien me faire un gros voyage en Amérique latine. Ah oui, je voudrais aller au Japon aussi, mais je sais pas si j'aurai encore de l'argent. Si j'ai encore un peu d'argent, j'irai au Japon. Ouais, en fait, je suis vraiment mes envies, quoi. Et aussi les emplois du temps de mes potes, parce que pour l'instant, je voyage pas toute seule, vraiment. Même si en Martinique, je suis restée 1 semaine seule, j'avais passé 1 semaine avant avec mes amis, donc j'avais repéré les lieux, compté les marches qui me menaient jusqu'au bungalow qu'on avait loué. Donc je savais exactement où j'étais. J'avais tout appris par cœur, j'étais capable de me déplacer les yeux fermés dans la résidence. Donc ça, c'était possible. Mais je me sens pas encore de voyager toute seule dans un endroit que j'ai pas apprivoisé en amont. Depuis 11 ans que je suis malade, bientôt 12 d'ailleurs, Je me suis constituée toute une petite bibliothèque de moments de beauté. Et du coup, cette petite bibliothèque que je me suis constituée, elle me sert aussi à ressortir des belles choses quand je vis des moments de déprime ou de doute, puisque forcément, quand tu perds la vue, c'est pas smooth, hein. Et donc là, avec toutes ces images, j'ai l'impression de me constituer une bibliothèque visuelle et que j'espère pouvoir ressortir quand j'aurai des coups de moins bien, quoi.
Alors, les petits chats, pas de traces, même pas de miaulement, je les ai pas entendus. Parfois, j'entends des petits pas au-dessus du toit la nuit, mais je sais pas si c'est les petits chats ou pas. Quant au jardin créole, c'était sublime, je vais vous envoyer des photos. Mais là, il me reste 4 minutes avant d'aller me préparer pour être à l'heure à 8h. Donc vous imaginez bien que je vais pas être en retard au kayak, parce que là vraiment c'est trop la honte. Donc je me mine le boule. Mais je vous enverrai des photos cet après-midi quand je serai posée ou à la plage ou à la piscine. Et c'était très très joli, c'est vraiment comme un paradis. Et vous, dites-moi comment ça va, le boulot là, c'est pas trop dur, racontez-moi un peu vos vies normales. Qui sera bientôt de nouveau la mienne. Bisous.
Tout est incroyable, tout est beau. Si t'as envie que tout soit beau, tout est beau, quoi. Et alors si quand même, là, en Jordanie, le désert du Wadi Rum, ça m'a donné envie de partir faire un trek dans le désert. Mais du coup, là, il va falloir quand même que je me manie, quoi, parce que je crois pas que je vais avoir le temps de faire tout ça d'ici. Mais à la limite, je pense que le désert, ça peut se vivre en étant aveugle. Enfin, de toute façon, tout peut se vivre en étant aveugle, c'est débile ce que je dis. Mais je pense que tu peux ressentir la puissance de ce silence et peut-être de manière encore plus intense, je sais pas, je vous dirai. J'y suis pas encore, le plus tard possible, mais je vous dirai. ouais. Cher scénariste de ma vie, tu as fait de moi une femme forte, plus forte que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. Je ne peux pas expliquer ce qui m'anime. Je suis muée par un désir puissant de vivre, d'aimer, de voyager, et par une espérance viscérale que demain peut ressembler à nouveau à un éclat de rire qui viendrait adoucir toutes les âmes en souffrance. Là, il y en a deux. Un que je mets au coffre et un que je garderai pour moi. Et c'est donc un Pantone avec plein de couleurs. Il y en a 2000. Un Pantone de couleurs, c'est un nuancier en fait de couleurs. C'est-à-dire que c'est un éventail de couleurs. Et là, normalement, j'ai à peu près toutes les couleurs qui existent. Et donc, ça va me permettre de pouvoir les annoter en fonction des souvenirs que j'ai. Par exemple, tu vois, si je prends le bleu de ma robe, là, de cette fleur, je me souviens bien de cette robe parce que c'est une robe que j'aime bien et que je mets régulièrement. Donc, dans ma mémoire, ça va être inscrit, cette couleur. Et donc, je vais aller chercher dans le Pantone le bleu qui lui ressemble. Où est-ce qu'il pourrait être? Par là, tu vois. Et je vais écrire sur la couleur qui ressemble à ma fleur, là, le nom de ma robe. Donc bleu, fleur, robe, kouka, 29 balles.
Comme ça, tu te souviendras de la couleur.
Voilà. Et si un jour je vais faire les boutiques et que la vendeuse, par exemple, veut me décrire, ou le vendeur veut me décrire, elle me dira, bah là, c'est le saumon des chaussures que vous avez acheté sur Vinted qui vont avec votre robe Cézanne. Voilà.
Parce que tu arriveras avec cet objet aussi. Tu arriveras avec le Pantone.
Mon objet. Et du coup, j'aurai noté dessus la description. Et donc, on saura à quoi ça correspond. Enfin, je saurai dans ma tête pouvoir me repérer.
Et par exemple, pour le rose, tu as au moins, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de pages avec des roses différents.
Ouais, je les noterai pas tous. Je vais en noter quelques-uns. Et là, je suis à mon avis déjà en train de perdre les couleurs. Donc, j'en suis pas du tout au deuil. Là, j'en suis à comment je me prépare pour pouvoir continuer à garder mon autonomie déjà chèrement reconquise. Parce que j'étais quand même complètement dépendante après mes greffes. Là, je suis là-dessus. Donc en fait, du coup, quand je suis à Paris, je me focalise sur le projet de comment adapter ma vie à la malvoyance et à ma future cécité. Et en ce moment, je suis assez focalisée sur l'apprentissage du braille, les cours de locomotion avec la canne, les cours d'accessibilité sur l'ordinateur, et puis le réaménagement de mon espace de vie. Il y a eu un moment de bascule au moment de mon voyage au Kenya. En fait, je repoussais le plus possible le moment où j'aurais une canne, parce que c'est aux yeux de tous. C'était ma propre peur de mon identité qui change avec cette canne. Et donc, je repoussais un peu ce moment-là. J'avais pas du tout envie d'y venir. Et puis, je suis tombée 3 fois au Kenya parce que, évidemment, le soir dans les lodges, dans les safaris, c'est sombre. Et du coup, je me suis fait mal 3 fois et je me suis fissuré le ménisque. Et j'étais déjà tombée 2 fois à Paris. Je m'étais vraiment fait peur. Et donc, en rentrant du Kenya, je me suis dit, OK, c'est mon dernier voyage sans canne. Parce que du coup, j'étais aussi hyper dépendante de ma pote. Pas capable de descendre un escalier sans elle parce que le soleil était tellement fort que j'étais éblouie. Enfin, tu vois, j'en étais arrivée à un stade où je me suis dit, OK, ça n'est plus possible. Là, Lorraine, il faut que tu acceptes que tu as besoin d'une canne. Et donc, en rentrant, j'ai pris des cours de locomotion. Je suis tombée sur un prof vraiment génial qui m'a laissé aller à mon émotion, en fait. Du coup, je me suis mise à chialer au premier cours. Parce que c'était trop dur, quoi. Et puis, en fait, c'est un pas de plus vers la cécité, quoi. La canne blanche, c'est un peu l'identité extérieure, on va dire, de la non-voyance. Et en Martinique, j'étais avec mes 2 meilleures amies. Et j'étais loin de Paris. Et je me suis dit, c'est le meilleur moment, en fait, pour l'utiliser. De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligée. Sinon, tu vas être accrochée à leurs bras tout le temps, c'est trop relou. Et pour elle et pour toi. Et j'étais avec mes 2 amies d'enfance qui m'ont laissé 0 chance. Hein. Premier matin, elles m'ont dit « Lorraine, ta canne ». Je disais « Oui, ça va, ça va ». Je m'en étais servi à l'aéroport parce que hyper pratique, tu passes devant tout le monde. Là, t'as plus besoin de te justifier. Là, les gens voient que t'as un problème, donc c'est super. C'est le seul privilège, il n'y en a pas d'autres. Et donc, premier matin, elles m'ont dit « Prends ta canne ». Et en fait, dans les 30 secondes qui ont suivi l'utilisation de ma canne, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis rendu compte à quel point elle était mon alliée, en fait. Cette canne et pas autre chose que mon allié. Elle m'indique tout en fait, elle me donne toutes les indications sur les aspérités du sol, sur les marches. Tu peux pas te planter s'il y a un escalier, il y a un escalier, s'il y a un poteau, il y a un poteau quoi. Et en fait, ça m'a permis de reprendre un rythme de marche beaucoup plus assuré, parce que moi je marche assez vite en règle générale. Et là, je marchais lentement et j'étais tout le temps en train de regarder mes pieds devant, puisque mon champ visuel est tellement réduit que je peux pas voir le sol et devant moi en même temps. Et donc en fait, le fait d'avoir la canne, ça me donne les informations au sol et je peux relever ma tête et lancer mon regard au loin en fait. Donc ça m'a permis de juste redresser la tête en fait.
Maintenant, tu la prends tout le temps, dès que tu sors de chez toi?
Tout le temps, ouais. Et du coup, je me marre pas mal parce que, du coup, comme j'ai une canne blanche, les gens se disent tout de suite, elle est aveugle. Et j'arrive dans le métro, je m'assieds et je sors mon téléphone. Et là, j'adore. Je regarde les réactions autour et les gens sont un peu perturbés. Ils disent, elle voit pas, c'est un sketch ou pas? Est-ce que c'est honteux? Elle prend une canne? Non, je sais pas, je me fais des films. Ça se trouve, ils me regardent pas du tout, mais du coup, je me tape des petites barres comme ça.
Là, c'est ta chambre.
Moi, c'est ma chambre. Bah, ça, c'est mon placard. J'ai fait rajouter une penderie pour que ce soit plus espacé et que je puisse plus m'y retrouver. Ah, il y a des étiquettes là aussi. Donc, je m'en suis jamais servi. Hein, donc... Ah oui, mais là, il y a des signes là-dessus.
Allumé.
Ah, cool. On imagine que jaune, c'est pour enregistrer, non, du coup?
Français.
Donc, du coup, voilà mes étiquettes. Donc, sinon, je pourrais lire le mode d'emploi. Hein. Toi, tu peux lire.
Alors, pour enregistrer un mémo, ouais, tu tiens soit le plus, soit le moins, donc un des deux boutons, là,
ouais,
jusqu'à, tu le maintiens appuyé, jusqu'à ce que le stylo te dise « ça va commencer à enregistrer, start recording ».
Ok, cool. Alors, vas-y, on essaye. Alors, je dis quoi?
Par exemple, cette robe?
Ouais, voilà. Alors.
Nouvelle étiquette. Commencer l'enregistrement.
Robe blanche, fleur bleue, kouka.
L'enregistrement est effectué.
Alors, on va vérifier.
Robe blanche, fleur bleue, kouka.
Ah, c'est cool quand même.
C'est très bien.
Je trouve que ça fait un peu péter un câble le matin quand même quand t'as envie de t'habiller.
Ouais.
Il faudrait que je mette un petit peu plus de peps dans ma voix, je trouve, parce que sinon t'as robe bleue, fleur bleue, kouka. Il faudrait que je dise des trucs un peu sympas. Allez, c'est pas grave, tu vas la trouver la robe que tu veux.
Donc, alors, si on doit décrire cette... cet objet,
ça s'appelle un talk pen, donc ça parle pour lui-même. C'est un stylo qui parle, et donc lorsque tu, donc j'ai plein d'étiquettes qui se scannent. Donc une fois que le stylo est posé sur l'étiquette, ça scanne l'étiquette, et donc en appuyant sur le bouton jaune ou rouge là, je peux enregistrer la description que je souhaite donner. Et à chaque fois que je passerai le stylo sur l'étiquette, ça me dira ce que j'ai enregistré.
Robe blanche, fleur bleue, kouka.
Avec ta voix.
Avec ma voix. Également, je pourrais me faire des petites blagues. Oublie, Elle est trop petite pour toi.
Tu vois. Et ça, tu vas l'utiliser pour tes habits. Et pourquoi d'autre?
Bah, pour mes épices dans la cuisine. Et après, je vais l'utiliser dans la salle de bain. Par exemple, j'ai des crèmes pour le visage, mais qui sont au même format.
Et les écrans? Parce que donc, tu vas pouvoir continuer à travailler sur écran.
Ouais, c'est ouf, en fait. Moi, j'ai acheté une tablette, du coup, parce que c'est ce qui semble être le plus adapté. Ils ont ce qu'on appelle le voice-over. Donc, en fait, lorsque tu passes le doigt sur ton écran, ça te dit ce qui est écrit. Donc, on vit à une époque où être aveugle, c'est évidemment pas drôle, pas facile, et tu perds en autonomie, mais quand même, tu peux te débrouiller grâce à la technologie. Et donc, l'ordinateur, oui, j'espère pouvoir reprendre mon travail un jour. Après, c'est pas moi qui ferai les PowerPoints, mais tant mieux, ça m'emmerdait grave. Cher scénariste de ma vie, je suis plutôt de celles qui pensent que l'on peut orienter ses choix de vie, mais là vraiment, tu ne me laisses pas beaucoup de latitude pour agir. J'ai beau crier, pleurer, hurler, implorer que l'on me laisse mes yeux, rien n'y fait. Il me faudra donc apprendre à vivre sans. Comment? Je ne sais pas encore, mais j'apprendrai. Je me rassure souvent en pensant que si l'on demandait à mon jeune donneur s'il souhaitait revenir ici, mais sans ses yeux, il me regarderait sûrement avec dédain et me répondrait « mais pfff ». Bien sûr. Alors j'en conclus que ça ne doit pas être si insurmontable que ça d'être aveugle. Après, je veux faire un album pour les ciels, pour savoir quel temps il fait. Donc, alors après, on m'a dit oui, tu vas ressentir différemment. Bon, j'ai envie de dire à cette personne, viens là que je te crève les deux yeux, tu vas voir si tu le ressens différemment. J'ai envie de me faire une bibliothèque de ciels, donc prendre en photo les ciels et dire comment est-ce que je les décris. Tu vois, parce que le ciel d'aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire oui, bah il fait gris. Bah en fait, il fait pas gris aujourd'hui. Il y a vachement de lumière. Et bah en fait, si je vois plus, j'ai envie de pouvoir le savoir. Alors peut-être que ça va me passer, parce que ça c'est aujourd'hui, parce que moi, mon contact avec le monde, il se joue beaucoup avec les yeux, comme tout ce qui voit. Donc le jour, quand on te dit qu'on va te l'enlever, tu te dis comment est-ce que je peux rester dans ce monde-là quand même, tu vois. Mais peut-être que au fur et à mesure que j'aurai appris à ne pas voir, peut-être que je ressentirai les choses différemment et que j'en aurai plus en affiche. Mais au cas où j'en ai pas plus en affiche, j'aurai mon petit album, tu vois. Et pareil, après, je vais me faire un lexique de vocabulaire pour décrire des visages, des paysages. Imagine, je rencontre l'homme de ma vie et je suis déjà aveugle. Comment je sais s'il est beau? Donc tout le monde te dit « Ouais, non mais c'est pas ça, attends la beauté intérieure, tu parles. » Comment je sais? Donc bien sûr, je vais lui toucher, mais tu touches pas le visage d'un mec au premier date, tu vois. J'aimerais bien que quelqu'un puisse me décrire si la bouche est charnue, pulpeuse, boudeuse, pincée. Enfin voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à avoir accès à ma mémoire visuelle, ou enfin à ce qui est visuel, même si je vois pas.
Donc il y a 4 ans, t'étais en couple?
Ouais.
Avec un homme dont tu étais amoureuse?
Ouais. Quand on s'est vu il y a 4 ans, j'étais en couple. Je suis restée avec ce garçon jusqu'en juillet de l'année dernière. Et en fait, on s'est séparés, malheureusement. On s'aimait énormément l'un l'autre. Mais on a été énormément secoués par mes problèmes de santé. Et en fait, je crois qu'à l'annonce de la perte de ma vue, lui, il a été complètement chamboulé. Peut-être qu'il a vu trop de choses, j'en sais rien. Mais du coup, on a été trop secoués. Et en fait, on n'a pas réussi. Notre couple n'a pas tenu. Voilà. Donc horrible, parce que du coup, tu perds la vue. Tu perds l'homme de ta vie en même temps. Mon ex, petit ami et moi, comme beaucoup de couples aujourd'hui, on s'était rencontrés sur une application. Bon, pas très glam, mais ça a très bien marché. Hein. C'est pas... Voilà. Aujourd'hui, je ne me vois plus faire un date Tinder ou un... Bon, déjà, à mon âge, j'en ai quand même ras-le-bol. Mais je me vois plus arriver avec ma canne. Jusqu'ici, je pouvais cacher, en fait, et puis découvrir la personne. Et puis, si jamais elle en valait le coup, et ben dans ce cas-là, je racontais mon histoire. Là, d'arriver avec la canne, j'ai tellement peur de la réaction du garçon en face qui pourrait, déjà, se barrer du rendez-vous, ne pas s'asseoir, ou, tu vois. Et je suis trop fragile en ce moment pour pouvoir recevoir la réaction de l'autre, me confronter à ça. Pour autant, tu vois, la première semaine où j'ai utilisé ma canne, j'étais sur la plage en Martinique, je rentrais à la location avec ma canne, et il y a un petit mec qui m'a repéré et qui m'a draguée de ouf, alors que j'avais ma canne. J'avais aussi un mini short, mais j'avais quand même ma canne. Et il m'a draguée, il m'a posé zéro question, je suis tombée sur un garçon hyper intelligent. Du coup, ça fait quand même pas mal d'écrémage, ce qui est pas plus mal. Tu tombes forcément sur quelqu'un qui a le cœur et l'esprit ouvert. En fait, la canne n'est pas un obstacle. J'ai pas envie d'être malheureuse, je trouve ça hyper chiant. J'ai déjà eu des gros moments difficiles après mes greffes et j'ai trouvé que c'était horrible en fait, c'est les pires moments de ma vie, je ne veux pas revivre ça. Je sais que je vais passer par des phases difficiles, évidemment là moi je dors pas sans l'exomile en ce moment, hein. Il faut pas se voiler la face. Hein. Je me réveille le matin à 5h30, 6h avec une petite chanson dans ma tête qui me dit tu vas être aveugle, tu vas être aveugle, tu vas être aveugle. Effectivement moi ce qui me fait le plus peur dans la vie c'est d'être déprimée et de plus avoir de ressort pour être capable de rentrer en résilience. Est-ce qu'un jour, ça sera trop et j'arriverai pas à rebondir, quoi. Donc, je vis des moments d'angoisse fort, mais j'apprends à les gérer, comme plein de gens qui vivent des angoisses, et puis je mets tout en place pour pouvoir être bien. Et en fait, j'ai accepté que ma vie était différente. Le bonheur, en fait, il peut se situer dans une tartine grillée le matin et un café au lait. Ma vie est un combat, quoi. Mais elle n'est pas que ça. J'ai pas envie qu'on dise Lorraine, l'aveugle greffée, en fait. J'ai envie qu'on dise Lorraine et qu'on sache de qui on parle. Cher scénariste de ma vie, je voudrais reprendre mon souffle. Reprendre mon souffle pour mesurer mon nouveau champ des possibles et l'apprivoiser. Sache que je décide encore et j'espère toujours que je suis suffisamment armée de joie, de désir, d'espoir, d'amour, de rêve, d'aventure, de rire, de découverte, de projet et encore d'amour pour tenir, tenir et tenir encore tant que dans un battement de mon cœur, la vie sera propulsée dans chacune de mes cellules. Cher scénariste de ma vie, sais-tu que les gens aiment aussi les comédies romantiques, les histoires qui se finissent bien? Et si nous écrivions ensemble une fin à la Friends, ça serait cool, non? Moi, je choisirais toujours le bonheur, parce que je ne sais pas être malheureuse trop longtemps. Cher scénariste de ma vie, tu as fait de moi une héroïne du combat, mais je serai avant tout une héroïne de la joie.
Coucou maman, coucou Aude et Clément, juste un petit coucou. On part avec Marie et Julie qui vous disent coucou. Visiter une distillerie de rhum là ce matin. Chez nous il est 9h30, chez vous ça doit être bien plus avancé. Et je suis trop contente d'entendre les bonnes nouvelles d'oncle Florian et de tante Bénédicte. Je suis bien rassurée. Je vous embrasse tous très fort. Et puis on se rappelle. Gros bisous. Et voilà, on est trop contente. On est assises, on vous embrasse toutes les trois.
Salut les Nazes, ouais. Non je rigole, salut la famille. On est arrivé à Petra, c'est trop beau. On est trop contente demain, grosse visite de Petra. Aude, tu cartonnes, c'est trop bien. J'aimerais trop être là pour pouvoir te faire passer des entretiens à Donf. Mais Yannès n'est pas là. Et Anne-Laure vous embrasse tous. Et voilà, demain on se lève à 6h45, donc on va se dépêcher de se doucher et d'aller se coucher. Gros bisous, bye.
Vous venez d'écouter le deuxième et le dernier chapitre de « Cher scénariste de ma vie », un épisode de notre série anniversaire. Postscriptum à 4 ans et déjà plus de 60 lettres sonores en ligne que vous pouvez découvrir sur votre appli de podcast ou sur notre site internet. Vous l'avez compris, pour notre anniversaire, nous prenons des nouvelles des toutes premières personnes que nous avons interviewées. Dans le prochain épisode de Postscriptum, vous retrouverez Ouda et Victor. Il y a 4 ans, ils nous parlaient de l'exploration de leur couple libre. Que sont-ils devenus ?